Le clivage, c'est bon, tout le monde
oui, filme tout.
En direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Ouais,
9h40, l'instant M est de retour dans vos oreilles.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Croix, une presse indépendante.
Formation numérique.
Le nez sur l'écran internet.
Quatrième saison de Cache Investigation sur France 2. Excellent sujet à la clé sur le business des voyages présidentiels à l'étranger. L'occasion de faire le point sur les débats, scandales et pétitions que suscite à notre époque ce journalisme dévolu à l'enquête. Bonjour Élise Lucet.
Bonjour.
Aux manettes du 13h semaine, vous montez au front pour des interviews choc.org d'un programme qui s'étale sur près de 2 heures. Ce sera juste après la chronique de Bruno Donnet, Lundi oblige, décodage d'une séquence courte qui en dit long.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Reprise en main du groupe Canal+, la suite. Vincent Bolloré débaptise iTélé, qu'il renomme CNews, remerciant au passage ses dirigeantes Cécilia Raguenaud et Céline Pigalle. Guillaume Zeller, déjà dans le giron des journaux gratuits de Bolloré, prend leur place. Philippe Labraud, également dans la famille Bolloré depuis Direct 8, sera son conseiller. Du coup, deux membres du comité d'éthique de la chaîne d'info, non consultés au passage, ont annoncé leur démission dans la foulée. Samedi, les rotatives d'Ivry ont imprimé Le Monde pour la dernière fois. De moins en moins de kiosques pour acheter le journal papier. On vous en parle régulièrement dans l'Instant M. Cap sur le numérique. Les grands journaux préfèrent se partager ce qu'il reste de ces équipements très lourds et très coûteux. Le Monde est imprimé aujourd'hui à Tremblay avec le Figaro et les Échos, à Montpellier avec le Midi Libre et à Toulouse avec la Dépêche du Midi. L'après-coup de Bruno Donnet. Salut Bruno.
Bonjour Sonia.
Tout va bien?
Ça va très bien, merci beaucoup.
Ce week-end, vous avez vu le clip de rentrée de M6, qualifié de trop mignon par un grand hebdo télé, je le jure. Pourtant, l'enfant qui est en vous a eu mal, très mal, Bruno.
Oui, j'ai d'ailleurs un peu hésité à venir avec mon doudou ce matin, ouais. Sonia, car j'ai encore bobo à la rétine. Alors, il faut, pour commencer, que je vous raconte ce que j'ai vu. J'ai vu un spot publicitaire d'une minute 15 qui passe sur M6 depuis mercredi dernier et qui a donc pour but de promouvoir la chaîne, ou plus précisément l'esprit de la chaîne. Et alors, qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, on y voit les animateurs vedettes de la 6, tous flanqués d'un enfant habillé rigoureusement comme eux, et censés leur ressembler trait pour trait, car le slogan de la pub, eh bien, il dit ça.
M6, continuons de grandir ensemble.
Voilà, on aperçoit donc une petite fille métisse qui ressemble vaguement à Karine Le Marchand, la présentatrice de L'Amour est dans le Pré, nous dire...
Amoureux.
Il y a aussi un gamin qui accompagne Stéphane Plaza. Alors lui, c'est le type qui vous dit qu'il faut dépenser 10 000 euros pour transformer votre appart en catalogue IKEA si vous voulez avoir une toute petite chance de le vendre. Et qu'est-ce qu'il dit ce petit garçon?
Il n'est pas au prix du marché.
Voilà, c'est subtilement subtil, hein, je vous avais prévenu, mais...
C'est pas fini.
Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. En effet, la petite fille qui ressemble à Christina Cordula, la reine du shopping, à qui on fait prononcer la phrase qui l'a rendue célèbre.
Ma chérie, c'est magnifique.
Bref, c'est complètement tarte, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que veut nous faire croire M6 avec ce spot et son slogan.
M6, continuons de grandir ensemble.
Car que nous dit cette pub au juste? Eh bien, elle nous dit 3 choses. Primo, que la petite chaîne qui monte n'est plus une petite chaîne. Ça, c'est vrai. Deuxio, qu'elle aime les enfants. Alors ça, malheureusement, c'est faux. Ce qu'elle aime, c'est vendre du temps de cerveau disponible de leur maman. Nuance, car si elle aimait vraiment les gosses, eh ben, elle leur offrirait pas des programmes qui les prennent pour des andouilles.
Bah, c'est la cible numéro 1, Bruno, des régies publicitaires. Hein. Ça s'appelle de la ménagère avec enfant. La ménagère toute seule, c'est fini. La ménagère avec enfant, il y a que les mioches qui vous font remplir le caddie.
Voilà, ça m'a pas voilà. Échappé. Et troisio, et c'est peut-être là que ça fait le plus mal, Sonia, cette pub tente à nous faire avaler que les enfants rêveraient tous de ressembler à des animateurs d'M6. Alors là, je dis non, halte là, il n'y a pas un gosse normalement constitué qui rêve de devenir Bernard de la Villardière.
On me dit que tout est possible.
Bah non, t'as menti Bernard, personne n'a envie d'aller présenter toutes les semaines des reportages sur les flics qui courent après des prostitutes droguées qui se font refaire les seins à Miami, voilà pourquoi. Pour qualifier cet ultime avatar de la tambouille publicitaire, j'ai choisi... pour ce matin, de laisser le mot de la fin au marmot qui ressemble à Philippe Etchebest, le cuisinier d'M6, qui résume parfaitement ce que j'ai ressenti en découvrant cette pub.
Franchement, c'est du foutage de gueule.
Pas du tout.
Si, si, si.
Bruno Donnet, c'est quoi une prostitute?
C'est une péripatéticienne.
Merci Bruno et à lundi prochain.
Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Élise Lucet sur France Inter ce matin, 1 an et demi d'enquête pour faire la lumière sur les voyages présidentiels. Le boulot est signé Laurent Richard. La maison de production, c'est Première Ligne TV avec laquelle vous collaborez depuis le début. Une première question, Cache Investigation à 23h la saison dernière. Vous étiez en prime time et en plus ça marchait vraiment très très bien. 3,5 millions de téléspectateurs. Pourquoi être passé en deuxième partie de soirée?
Parce que ce sera les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que vous aurez des premières parties de soirée et des secondes parties de soirée.
Et ça s'est décidé en fonction de quoi? De la teneur du sujet?
Non, pas vraiment. Même si peut-être ce sujet est un peu plus ardu, entre guillemets, mais même pas. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est très intéressant. Et on s'est intéressé à toutes les contreparties, entre guillemets, qu'il pouvait y avoir derrière les milliards d'euros qu'on pouvait, nous, la France, encaisser quand on allait dans des pays qui ne sont pas forcément des pays recommandables comme l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, qui ont certes du pétrole et du gaz, mais
alors
qui
là,
sont aussi des dictatures.
Alors là, je trouve que vous frappez très fort, justement. C'est quand vous montrez l'implication des élus locaux, des élus français, qui sont, parce qu'on part de l'Élysée pour redescendre jusque vraiment jusqu'au terrain, jusqu'aux députés, jusqu'aux maires, jusqu'aux sénateurs.
Association des Amis de l'Azerbaïdjan, allions nos cultures et nos savoirs, rejoignez-nous.
Je vais m'y
Bah attendez, alors là, ça c'est la première dame de l'Azerbaïdjan, on est d'accord, elle est là.
Oui.
Et là, vous êtes là. Alors, c'est un peu embêtant si vous n'êtes pas au courant. Là, tac, oui, Thierry Mariani.
C'est un conseil d'honneur, mais j'ai jamais siégé.
Conseil d'administration.
Ah oui, d'accord, mais écoutez, je le découvre, voilà, c'est tout.
Découvrez que vous êtes au conseil d'administration.
Oui, je découvre que je suis au conseil d'administration de cette association. Voilà.
C'est pas possible.
Donc un voyage présidentiel, c'est aussi toute une république qui voyage avec lui.
C'est la république tout entière. Et quand on va dans un pays comme l'Azerbaïdjan, et puis qu'on en profite pour demander un peu d'argent pour rénover des églises, et qu'on ferme les yeux, mais alors absolument, clairement, ces élus ferment les yeux, et on entendait Thierry Mariani qui, franchement, fait semblant de découvrir qu'il est membre d'un conseil d'administration d'une association des Amis de l'Azerbaïdjan, parce que nous, on l'a vérifié, il le sait, a
posteriori. Alors, ça va plus loin dans les élus du CEP, puisque vous poursuivez Rachida Dati de vos questions, elle refuse d'y répondre. Rachida Dati, elle est élue locale, au sens où elle est maire du 7e arrondissement,
oui.
Elle est aussi députée européenne et elle est soupçonnée de conflit d'intérêts. On écoute l'un de ses confrères, député vert Gerald Hoffner.
Rachida Dati a déposé au Parlement un grand nombre d'amendements en faveur de l'industrie du gaz. Elle a écrit des amendements pour empêcher des tiers extérieurs d'enquêter, entre autres, sur des soupçons de corruption dans les entreprises du secteur. Elle a écrit beaucoup d'amendements dans cette direction. Et il y a, de manière répétée, des allégations sur le fait qu'elle aurait reçu de l'argent de la part de Gaz de France et d'autres compagnies.
Et oui, Rachida Dati est avocate et ses revenus sont 6 fois supérieurs à la moyenne des avocats français. Donc, d'où proviennent ses revenus? Est-ce qu'elle se sert de son mandat public pour servir des intérêts privés? C'est la question que vous posez, à laquelle elle...
Bon, contente de poser,
que
vous avez vu.
Que vous tentez de poser, oui, parce qu'elle vous, voilà, elle vous répond que c'est des questions à la con. Elle dit que vous êtes une pauvre fille et que votre carrière est pathétique.
N'est-ce pas?
Ça fait un bon moment de télévision. Alors, un mot, parce qu'on va revenir à cette séquence.
Oui. J'ai envie de parler quand même de cette séquence parce que je crois que nous, on est uniquement dans notre rôle de journaliste. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est notre boulot de poser des questions. C'est important de savoir à un moment si oui ou non un élu est corrompu. C'est très important et on a le droit de poser ces questions. Et de ne pas y répondre et de nous envoyer bouler comme ça, je trouve que ça donne l'image d'élus de la République qui ne savent pas être dans la politique d'aujourd'hui, dans la politique du 21e siècle, celle que les électeurs réclament, celle de la transparence.
Alors moi, je me suis posé une question. J'ai eu quand même presque un souci, un problème en regardant le Cache Investigation. Il y a 2 enquêtes là-dedans. La première, dont on vient de parler, un petit peu, elle mériterait beaucoup plus. La seconde, sur ce qu'on appelle le Kazakhgate. Alors là, vente d'hélico par Nicolas Sarkozy au Kazakhstan en échange d'une bienveillance judiciaire autour de l'un des oligarques...
Un très proche du président.
Nazarbayev. C'est pas vous qui sortez cette affaire.
Elle est sortie dans beaucoup de journaux, effectivement.
Vous y
simplement,
apportez beaucoup.
Voilà, Laurent Richard y apporte énormément parce qu'il a réussi à avoir des témoins qui n'avaient jamais parlé jusqu'alors.
Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que vous mettiez ces 2 enquêtes côte à côte sous le label « Mon président est en voyage d'affaires ». On est bien d'accord qu'un scandale de la République dans lequel sont mouillés tous les proches de l'Élysée, c'est quand même pas pareil que le voyage en Azerbaïdjan de François Hollande. Certes, il ferme les yeux sur l'affaire des droits de l'homme, mais on n'est pas dans une affaire de scandale d'État.
Non, simplement, moi je suis pas d'accord avec vous dans la mesure où l'intérêt était de savoir jusqu'où on est capable d'aller quand il s'agit de signer des contrats mirobolants. Même si les scandales ne sont pas les mêmes, on est d'accord. Les présidents de la République, quels qu'ils soient, mettent un mouchoir pudique sur les droits de l'homme, mais vraiment tous, quels qu'ils soient, pour vendre et pour faire de la diplomatie économique.
Est-ce simplement,
un mot très important, je suis désolée, mais c'est trop important pour nous. Au cours de cette enquête, Laurent a rencontré Leïla Younous, qui est une opposante qui défend les droits de l'homme, et une journaliste d'investigation, donc une de nos consoeurs, qui s'appelle Khadija Ismailova. Elles viennent d'être condamnées là, maintenant, tout de suite, dans cette belle république d'Azerbaïdjan. Elles viennent d'être condamnées, l'une à 8 ans et l'autre à 7 ans et demi de prison, parce qu'elles font leur boulot d'opposante aux droits de l'homme ou de journaliste d'investigation.
Et elles avaient rencontré François Hollande lors de son déplacement.
Et elles avaient rencontré François Hollande et Laurent les avait interviewées. Elles interviennent à plusieurs reprises dans le documentaire. Donc ce documentaire leur est dédié, particulièrement à notre consoeur, parce qu'elle fait le même métier que nous, mais à Leïla aussi. Et voilà ce qui se passe. C'est ça, hein, la République d'Azerbaïdjan. C'est ces gens-là avec qui on fait des affaires et à qui on ne veut pas parler des droits de l'homme.
Est-ce que justement cette quatrième saison fait qu'aujourd'hui vous êtes contacté par des sources qui vous mettent sur la piste d'affaires que vous n'aviez pas anticipées, dont vous n'aviez pas entendu parler, par des gens qui veulent faire sortir des infos, par des lanceurs d'alerte, puisque le terme
Depuis plusieurs années, en fait, maintenant, l'émission entame sa quatrième année et dès la fin de la première saison, on a commencé à recevoir des choses qui sont plus ou moins intéressantes parce que vrai que nous, il faut qu'on consacre 2 heures d'enquête à un sujet. Mais pour moi, c'est quasiment le plus beau des hommages. Il y a 2 très beaux hommages, c'est celui-là, les lanceurs d'alerte qui nous font confiance parce qu'à un moment, ils disent c'est du bon boulot et ces gens-là travaillent bien et ils vont pas nous griller, en fait. C'est vraiment ça. On a toujours eu, nous, vis-à-vis des gens qui ont travaillé avec nous, de nos sources ou des lanceurs d'alerte avec qui on a travaillé, mais une volonté farouche de les protéger. Donc il y a cette confiance-là. Et le deuxième plus gros compliment qu'on nous fait régulièrement, c'est on est heureux de payer notre redevance. Et moi, quand les téléspectateurs me disent ça, je me dis, eh ben c'est bon, l'équipe de Cash, elle a réussi son boulot.
Ça tombe bien parce que le sujet revient sur le tapis avant la fin septembre, comme vous le savez. Avec le numérique et la mondialisation, on voit bien que le traitement des données est devenu tels que les grands quotidiens se donnent la main pour partager les enquêtes, pour partager le traitement des données. Donc Le Monde, par exemple, main dans la main avec le Guardian, le Washington Post, avec Le Soir également, Libé, Mediapart. Pourquoi est-ce que ce type de consortium ne voit pas le jour entre différentes maisons de production ? En Europe, par exemple, ou en France, entre différentes chaînes de télé, Lise Lucet.
Alors, différentes chaînes de télé, moi, j'y crois pas du tout, mais il y a, parce qu'on est sur des médias différents et concurrents. Mais en revanche, ça pourrait être entre différentes chaînes de télé étrangères et françaises,
Absolument, entre la BBC et France 2.
Alors nous, on a déjà fait des enquêtes communes avec BBC Panorama, qui est leur grand magazine d'investigation. Et puis, j'imagine que vous connaissez l'ICIJ, qui est donc une communauté de journalistes d'investigation, qui est vraiment réunie dans le monde entier, qui pour le coup, là, réunit des gens de radio, des gens de télé, des gens de presse écrite, des gens d'agence, des gens d'internet, enfin de tous les médias possibles et imaginables. Moi, je pense que c'est un très bon signal qui est envoyé de dire qu'à un moment, les hommes politiques ont leur réseau, les PDG ont leur réseau,
et ben nous aussi,
on a notre réseau. Et croyez-moi, il est puissant. Et croyez-moi, vous allez en entendre parler dans pas très longtemps.
Alors, il y a depuis 2 ans un débat autour de la notion de preuve. Ça a surgi avec l'affaire Cahuzac. D'un côté, Edoui Plenel qui dit en substance que dans bien des affaires, et ce fut son cas pour Greenpeace par exemple, le journaliste n'aura jamais accès à la preuve de manière légale. Mais à un faisceau d'indices qui permettent de sortir une info et qui ensuite va déclencher une enquête, une affaire, un scandale, etc. Puis de l'autre, un Jean-Michel Apathy, très médiatisé, disant « Mediapart accuse sans preuve et pratique un journalisme d'accusation et non d'investigation ». Vous vous placez de quel côté de la barrière ?
Moi, je défends l'investigation, je dirais pas quelle qu'elle soit, parce que tous les moyens ne sont pas forcément toujours bons. Mais je pense, en revanche, que... Il y a beaucoup de niveaux de protection dans les mondes politiques ou les mondes économiques. Ils ont énormément de moyens pour se protéger. Je pense particulièrement au monde économique. C'est-à-dire que quand on s'intéresse, nous, aujourd'hui, à une grande entreprise, comme on l'a fait pour McDonald's ou comme Philip Morris, enfin des Zara, des entreprises de ce niveau-là, Il y a derrière ces gens-là des armées d'avocats, des armées de lobbyistes, des gens de l'industrie du tabac, par exemple, c'est énorme. Voilà, ils ont énormément de moyens. Nous, à côté, on est des nains, mais on est des nains très actifs. Et je pense qu'il faut, à un moment, quand on a la possibilité d'avoir des informations, non pas fouiller dans les poubelles ou des choses comme ça, comme nous accuse de faire Jean-Michel Apathy, c'est pas ça qu'on fait. Faut pas se tromper, hein. On fouille pas dans les poubelles, on recoupe 5 fois nos informations, on travaille très sérieusement. Et aujourd'hui, vous parliez de sources, c'est souvent des gens de l'intérieur qui, à un moment, ont envie de dénoncer. Je tiens à saluer le courage de ces gens qui sortent du bois. Quand je dis à leurs risques et périls, c'est vraiment une expression que je pèse. C'est
oui,
à leurs risques et périls. C'est des risques personnels, de carrière, qui sont brisés. Il y a des sources ou des lanceurs d'alerte qui aujourd'hui sont RSA. Mm-hmm. Ils n'ont plus de boulot, ils n'auront plus jamais de boulot dans leur secteur. Ils n'ont rien pour vivre. Donc ces gens-là, c'est risques financiers. Péril, ça peut être péril de mort. Quand on s'attaque à des entreprises comme ça, ça peut être extrêmement dangereux. Moi, je le dis profondément, je le pense. Donc, chapeau bas à ces gens-là, c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à travailler. Et je pense profondément que plus ça va, plus des gens se lèvent contre des dérives, pas les entreprises, nous on n'est pas anti-entreprise à cash, hein, mais des dérives qu'il peut y avoir dans ces entreprises ou au sein du monde politique parfois.
Alors, séisme dans le petit monde de l'investigation, depuis 15 jours, des confrères, Eric Laurent et Catherine Gracier, auraient accepté de l'argent du royaume marocain pour ne pas écrire sur le roi du Maroc. Alors, ont-ils été piégés? Avaient-ils l'intention de faire chanter le royaume, hein? De toute façon, il y a une enquête en cours. Est-ce que, Élise Lucet, ça montre pas surtout la tension vertigineuse qui se noue entre celui qui mène une enquête et le sujet de cette enquête ?
Moi, je pense que...
Où là, il y a un rapport de force d'une intensité
oui,
parfois
bien sûr
extrêmement violente.
Bien sûr qu'il y a un rapport de force. Alors, peut-être que c'est plus facile pour moi d'en parler parce que comme nous, en télé, on travaille en équipe, on est moins solitaire. Mm-hmm. Mais en tout cas, ça va peut-être être dur pour mes confrères, mais enfin, je n'imagine pas un seul cas de figure où on puisse accepter une enveloppe avec de l'argent dedans. Piège, pas piège, c'est inimaginable. Parce que on est justement, comme vous le disiez fort justement, dans un tel niveau de tension qu'on sait que les pièges sont possibles. On sait tout ça. On sait dans quoi on met les pieds. Enfin, on sait qui est en face. Et quand on fait une enquête sur le roi du Maroc, et quand on en a fait beaucoup d'autres avant, on sait encore plus qui est en face. Donc on peut pas être à la fois averti et puis du jour au lendemain se dire « Ah ben j'ai été naïf ». C'est pas possible. Quand on fait une enquête de ce niveau-là, on peut jamais être naïf. Hein. C'est pas possible.
Merci beaucoup.
Impossible.
Élise Lucet, Cache Investigation, ce soir, 23h. Alors, cette interview, elle est à revoir en vidéo sur franceinter.fr. Moi, je vous retrouve demain matin, juste avant le 7-9, pour le Conseil télé du soir. 9h40, c'est le retour de l'émission Média. Poutine et la télévision, demain au menu, c'est du lourd. C'est la fin de l'instant M. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour Sonia.
Alors, un jour en France.
Oui, un constat d'abord. Une demi-douzaine de services d'urgence ont fermé, au moins temporairement, cet été, dans les hôpitaux de France. C'est évidemment très mal vécu dans les villes concernées. D'un côté, il y a des services d'urgence saturés. D'un autre côté, il y en a très peu fréquentés. On manque d'urgentistes. Est-ce qu'il faut revoir la carte des urgences et comment? C'est le sujet du jour. 01 45 24 7000 et le mail unjouren-france@radiofrance.com pour vos questions et commentaires.
Voilà, merci. Ce sera juste après les infos. Et moi, je remercie mon équipe, Marie-Christine Thomas à la réalisation, Redouane Tella, Elodie Piel à mes côtés pour préparer l'émission et à la technique, Maxime Ingrand.